Bon réveil, il est 6h sur Europe 1.
Le pays tout entier vient de franchir les 10 millions de personnes qui ont reçu une première vaccination.
Et le Premier ministre se félicite de ce premier objectif atteint dans la campagne de vaccination des Français. Mais en parallèle, la pression sur les hôpitaux ne diminue pas. Les efforts se poursuivent pour trouver des places en réanimation. Dans ce journal, un couple de gendarmes attaqué à son domicile dans l'Oise par un agresseur venu pour se venger. Le projet de loi euthanasie confronté à un mur d'amendement à l'Assemblée nationale. Et puis le nouveau single de Clara Luciani à découvrir à la fin de ce journal. Un avant-goût de son prochain album qui sort en juin.
À suivre la page des sports et puis mon invité inattendu qui est un grand enfant qui veut continuer à rêver d'avion. Un chanteur qui vient réagir à la polémique déclenchée par la maire de Poitiers qui retire les subventions de l'aéroclub et estime que l'avion ne doit plus faire partie des rêves d'enfant.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et cela aurait pu virer au drame. À Grandvilliers, dans l'Oise, un couple de gendarmes a été agressé à son domicile cette semaine par deux hommes qui se sont introduits dans leur logement de fonction. Cette agression n'est pas due au hasard. L'un des deux suspects aurait agi par vengeance. Il connaissait déjà sa cible. Guillaume Bié.
T'inquiète pas, je sais où tu habites. Des mots menaçants prononcés à l'encontre d'un gendarme il y a quelques jours lors d'une banale affaire d'outrage. Mais l'auteur de ces propos est bel et bien passé à l'acte. Mardi soir, avec un autre homme, tous les deux ivres, ils fracturent la porte d'entrée de ce gendarme et pénètrent chez lui. Le militaire qui était avec sa femme sort de sa chambre, arme au poing. Il fait des sommations, mais l'un des agresseurs continue d'avancer vers lui. Alors le gendarme tire et le touche au bassin avant de lui prodiguer les premiers soins. Hospitalisé, cet homme est hors de danger. Son complice, lui, a été arrêté sur place par des renforts et présenté hier soir à un juge pour être mis en examen. Ces deux suspects de 18 et 25 ans devront s'expliquer devant la justice sur leurs intentions réelles. Certes, ils n'étaient pas armés, mais leur détermination sur fond d'alcool ne fait aucun doute. Ils savaient parfaitement chez qui ils allaient, souligne la procureure.
Le récit de Guillaume Bié, chef du service police-justice d'Europe 1. Le célèbre palace Georges V sur les Champs-Élysées à Paris a été visé par un braquage hier soir. Deux hommes armés ont fait irruption dans l'hôtel de luxe et ont dérobé 100 000 euros de bijoux de grande marque. La brigade de répression du banditisme est en charge de l'enquête.
Vous l'entendiez, la campagne de vaccination contre le Covid progresse. Plus de 10 millions de Français, ça y est, ont reçu leur première dose. Mais la pression s'accentue sur les services de réanimation.
Et plus de 5 700 patients admis dans ces services. En ce moment, les déprogrammations d'opérations non urgentes se poursuivent pour libérer des places. Lors de son allocution la semaine dernière, Emmanuel Macron a promis de passer à plus de 10 000 lits dans les prochains jours. Mais concrètement, comment faire? Et Victor Delande, aujourd'hui, de combien de lits de réanimation dispose la France?
Alors, il y a environ 8 000 lits de réanimation aujourd'hui en France, contre 5 000 avant le début de la crise sanitaire l'année dernière. Pour arriver à ce chiffre, il a fallu transformer des lits de soins continus en lits de réanimation, en les équipant notamment de respirateurs artificiels et de systèmes de surveillance plus poussés. Il faut aussi plus d'infirmières pour veiller en permanence ces patients très graves. Mais pour passer à 10 000 lits, comme l'a promis Emmanuel Macron, il faudra aller encore plus loin, transformer des lits de médecine classique en lits de réanimation. C'est du bricolage, mais ça marchera sur un médecin spécialiste des soins intensifs. Et l'étape d'après, l'ultime, c'est la création d'unités de réanimation dans des structures où il n'y a jamais de soins. Ainsi, l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris vient juste de transformer son self en service de réanimation. 40 lits, tout équipés, qui ne reçoivent pas encore de malades et qui ne serviront qu'en dernier recours si vraiment tous les autres services débordent.
Victor Delande, la crise du Covid qui va jusqu'à perturber la diplomatie alors que les tensions commencent à s'apaiser entre la France et l'Algérie. Jean Castex renonce à son déplacement à Alger.
Annulation tardive alors que le voyage était prévu dimanche. Jean-Rémy Baudeau, le Premier ministre, justifie sa décision par les conditions sanitaires.
Oui, ce déplacement aurait dû être l'un des symboles du réchauffement des relations entre la France et l'Algérie, mais c'était sans compter sur le Covid. En temps normal, Paris et Alger se retrouvent régulièrement pour ce qu'on appelle un comité intergouvernemental de haut niveau, une sorte de réunion entre ministres pour discuter diplomatie, sécurité, contrat ou encore éducation. La dernière fois, c'était en 2017 à Paris, et l'Algérie avait alors dépêché 8 ministres. Et c'est ce niveau que le pays attendait en retour ce week-end. Impossible à cause du Covid, a répondu Matignon, qui a proposé de venir avec un format plus restreint, quelques ministres importants, dont Bruno Le Maire et Jean-Yves Le Drian. Une délégation jugée insuffisante par les autorités algériennes, d'où cette annulation. Ça aurait été un autre pays, ça aurait été la même chose, plaide l'entourage de Jean Castex. À Paris, on refuse de laisser entendre que ce report illustre d'éventuelles difficultés avec Alger. Paris qui s'est lancé dans un travail de mémoire sur la guerre d'Algérie qui a ouvert récemment ses archives. Mais manifestement, le nombre de ministres présents lors d'un déplacement conditionne encore beaucoup le dialogue entre les deux pays.
Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1. Le parquet antiterroriste demandera un procès contre le groupuscule d'extrême droite OAS. 9 de ses membres sont soupçonnés d'avoir envisagé des attaques, notamment contre Jean-Luc Mélenchon, Christophe Castaner ou des personnes de la communauté musulmane.
Il est 6h05 sur Europe 1, vous en parlez cette semaine. Les épisodes de gel ont causé beaucoup de dégâts dans les cultures, les vignes notamment. Alors les agriculteurs jouent des pieds et des mains pour protéger leurs plants et cela peut avoir malgré tout des conséquences sur l'environnement.
Et pour préserver les vignes, des bougies et des ballots de paille ont été allumés pendant toute une nuit le long des rangées. Résultat, Jean-Luc Bougeon, et cela a provoqué une couche de pollution hier matin.
Effectivement, un voile grisâtre qui s'est développé dans toute la vallée du Rhône, grosso modo d'Avignon jusqu'à Lyon, où il était encore visible en début de matinée, explique Géraldine Guillot de l'organisme Air Atmo Auvergne-Rhône-Alpes qui mesure la qualité de l'air dans la région.
Ça a commencé assez tôt finalement dans la nuit, à partir de minuit 1h. Les agriculteurs ont dû passer une nuit assez terrible d'ailleurs. Et donc un voile grisâtre, voire même presque noir à certains endroits, qui est assez exceptionnel cette année, d'une rare ampleur, ce qui nous conduit donc à mettre en place une vigilance de pollution sur le bassin lyonnais et sur la vallée du Rhône.
Alors à l'origine de cette pollution, il y a les systèmes de brûlage destinés à protéger les cultures contre le gel. La nuit dernière, il a fait jusqu'à moins 5 degrés dans le secteur, d'où l'allumage de bougies ou de ballots de paille. C'est ce qu'a fait David Vial, qui cultive de la vigne et des abricots à Mercurolles dans la Drôme.
C'est notre outil de travail, c'est notre gagne-pain. On essaye de sauver notre saison. Donc effectivement, il y a un gros nuage qui se dégage, mais c'est une fois dans l'année, voire deux. Après, on n'a pas bien d'autres moyens pour essayer de défendre. C'est vraiment de sauver notre saison.
Voilà, sauver notre saison, c'est bien sûr l'objectif de tous ces agriculteurs. Et justement, le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, a annoncé hier le déploiement du régime de calamité agricole.
Les débats sur la proposition de loi euthanasie à l'Assemblée nationale ont tourné court. Comme prévu, le texte n'a même pas pu être soumis au vote car il a fallu examiner plus de 4000 amendements en quelques heures seulement.
Et d'un côté, on crie à l'obstruction parlementaire. De l'autre, on estime que l'examen du texte a tout de même pu porter le débat haut dans l'opinion. Hélène Tarzian a suivi ces débats passionnés.
À la sortie de l'hémicycle, quelques députés improvisent une aide d'honneur au rapporteur de la loi, Olivier Falorni, malgré un vote final empêché par une avalanche d'amendements.
On savait qu'il y avait une obstruction, c'est consternante, mais nous avons voté l'article 1. Il instaure une assistance médicalisée active à mourir. C'est historique.
L'adoption de l'article est symbolique parce qu'il est transpartisan. Le chef de file de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui a soutenu le texte, salue un bond en avant.
Mais on a avancé, puis ça va revenir. Ça va. De toute façon, c'est pas un truc qu'on avale d'un coup à la cuillère. C'est une idée qui doit faire son chemin. Elle doit avancer, elle doit mûrir.
Car pour l'heure, le débat s'est heurté à l'opposition ferme d'une poignée de députés LR à l'origine de plus de 2000 amendements. Parmi eux, Julien Ravier.
Chacun s'est battu avec ses armes. Il n'y a pas de gagnant, pas de perdant. Nous avons juste éclairer les débats. Non, il n'y a pas de gagnant puisque vous n'avez pas adopté votre proposition de loi.
Les partisans du texte espèrent maintenant que la majorité parlementaire ou le gouvernement se saisiront du sujet. Le débat mérite d'avoir lieu, a expliqué le ministre de la Santé, Olivier Véran, mais il a besoin de temps.
Hélène Tarzian.
On termine ce journal en musique. Le nouvel album de Clara Luciani sortira le 11 juin prochain. Il s'appelle Cœur. Et pour patienter, la chanteuse aux deux victoires de la musique dévoile aujourd'hui un premier extrait.
Le reste, c'est son nouveau single. Clara Luciani explique sa signification au micro d'Angèle Châtelier.
C'est une chanson de rupture, mais je la vois pas comme une chanson triste parce que finalement ça raconte l'histoire d'une femme qui dit « Écoute, tous nos échecs, ça je te les laisse et moi ce que je garde, c'est ce qui a été le plus beau de cette histoire, à savoir en fait une entente charnelle et ces plaisirs-là. »
Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse les souvenirs émus de ton corps nu.
Comme cette chanson, vous dites que ce deuxième album à venir est plus adulte.
Je pense que je me sens un peu plus en phase avec moi-même. Je suis pas non plus une vieille dame, mais j'ai 3 ans de plus et quand on est dans la vingtaine, en fait, c'est des années qui sont hyper importantes. C'est juste une version peut-être plus assumée de ce que j'ai voulu faire déjà sur le premier album.
Je sais, j'ai tout gâché.
Votre raison de vivre, Clara Luciani, c'est les concerts. Vous étiez d'ailleurs révélation scène de l'année 2019 aux Victoires de la Musique. Comment vous vous sentez depuis un an sans public ?
Je me sens un peu dépossédée de ma fonction. Je tiens bon, mais j'ai espoir de remonter sur scène très très vite.
Le reste, nouveau single de Clara Luciani, on attend l'album.
Absolument, et justement, elle en parlera peut-être ce soir au micro d'Émilie Mazoyer. Clara Luciani sera l'invitée de musique sur Europe 1 de 20h à 22h.
Sophie Echen pour le journal, merci, il est 6h10. Avec le journal des sports avec Lénaïque Monnier et quelques petites frayeurs hein, hier soir pour Lyon en Coupe de France.
Oui, parce que Lyon menait 2-0 contre le Red Star et s'est fait rattraper par le club de national francilien. Il a donc fallu aller au tir au but et dans ces cas-là, une seule chose compte, écoutez l'entraîneur de Lyon, Rudy Garcia.
Déjà, on est qualifié, donc il n'y a que ça qui compte en Coupe. Par contre, c'est vrai que quand on mène 2-0, qu'on est une Ligue 1 de haut de tableau et qu'on joue une nationale... Et notamment quand on a une balle de 3-0 au bout de 5 minutes en deuxième période, on doit la mettre. Bravo pour le retour du Red Star en deuxième période. Mais nous, on a, contrairement à ce qui était prévu, pas fait la deuxième période qu'il aurait fallu faire. Voilà, maintenant, ce qui compte, c'est de se concentrer dimanche sur Angers parce qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter sur ce match-là, sur un terrain qui permet pas de jouer au football. C'est pas du football, un synthétique. Mais je suis content de ne pas avoir de blessés.
Rudy Garcia interrogé par Cyril de la Morinerie. Le tirage au sort a lieu ce soir. On rappelle à ce stade la présence de Paris, de Monaco. Il reste aussi deux petits poussés, deux clubs de National 2, Rumilly et le Canet en Roussillon.
Place à la Ligue 1 ce soir. On attaque la 32e journée.
Oui, le contre-la-montre est lancé. Hein. En haut du classement comme en bas, Lille, le leader, joue d'ailleurs ce soir face à Metz avec 3 points d'avance sur le Paris Saint-Germain. Le LOSC a bien quelques arrière-pensées, mais Christophe Galtier, l'entraîneur, ne veut pas trop réfléchir au titre, mais plutôt à ses objectifs du début de saison.
L'objectif de début de saison était d'être européen. On le sera. Cet objectif est atteint. Évidemment qu'on souhaite jouer la saison prochaine la plus belle des compétitions, qui est la Champions League. Et là, il va falloir se battre. Mais en se battant pour la Champions League, vu la situation au classement et vu ce championnat très particulier, très singulier, en s'accrochant pour la Champions League, on peut créer une surprise, une énorme surprise.
Christophe Galtier avec Sébastien Bois. Paris ne jouera que demain, déplacement à Strasbourg.
Le gratin du golf est réuni depuis cette nuit à Augusta.
Oui, c'est un tournoi du Grand Chelem, l'un des quatre, le beau parcours de Géorgie. Et un Français que l'on surveille, c'est Victor Pérez, 29e mondial. Christophe Mounieza, le patron des équipes de France, nous a dit un petit peu plus sur le profil de ce joueur.
On pense qu'il est parfaitement capable de se positionner comme il l'a fait très récemment lors du Players Championship ou lors de l'épreuve de championnat du monde de match play, c'est-à-dire aux alentours du top 10. Il les collectionne, les places dans les 10 meilleurs sur ce début de saison 2021. Donc on ne serait pas surpris de le retrouver en si bonne compagnie lors de ce Masters d'Augusta. Il a encore une fois le jeu, les qualités techniques, athlétiques et mentales pour aller chercher ce type de performance dans ce très grand tournoi.
Christophe Mignéza avec Corinne Boulou. Pour l'instant, Victor Pérez est assez loin, mais c'est la première journée simplement. 6 coups au-dessus du par. C'est l'anglais Justin Rose qui est en tête ce matin. 7 coups, lui, sous le par.
Lénaïque Monnier, merci. Il est 6h14. Europe 1. C'est la dernière polémique en date entre les écologistes et le gouvernement. La maire de Poitiers qui retire les subventions accordées aux aéroclubs, jugeant que l'aviation ne doit plus faire partie, je cite, des rêves d'enfants. Ça a beaucoup fait réagir et ça fait réagir ce matin mon invité inattendu. Bonjour.
Bonjour, ici Herbert Léonard.
Bonjour Herbert Léonard, merci d'être sur Europe 1 avec nous ce matin. Alors pourquoi vous pour parler d'avions et de rêves d'enfants? Parce que vous avez été l'un de ces enfants et vous êtes toujours un vrai passionné. Vous avez même travaillé pour Aviation Magazine à une époque. Vous allez nous raconter ça, à tout de suite.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Le chanteur Herbert Léonard est mon invité inattendu ce matin. Herbert Léonard, vous me le disiez, vous avez été ce gosse qui rêvait d'avion, qui rêvait de voler.
Oui, c'est-à-dire que du jour où je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui volaient au-dessus de ma tête, je me suis intéressé à l'aviation, mais pas spécialement pour piloter, c'est les avions eux-mêmes qui m'intéressaient. Beaucoup de gens savent que je m'intéresse à l'aviation russe surtout et que je suis spécialisé là-dedans, mais c'est surtout au niveau historique que ça m'intéresse et au niveau de la machine, mais pas du pilotage.
Qu'est-ce qui vous intéressait? Qu'est-ce qui vous passionnait?
Eh ben, c'est les machines, surtout En ce qui concerne les Russes, parce que personne ne parlait des Russes à l'époque où je me suis vraiment intéressé à eux, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi on construit un type d'avion donné, comment on le construit et à quoi il va servir, quoi. Dans quel contexte économique, politique et stratégique on construit un avion. C'est ça qui est important.
Et jeune, je crois que vous en faisiez des maquettes.
Oui, oui, j'ai fait le cursus habituel pour les mômes. C'est-à-dire, j'ai fait des maquettes d'abord, ensuite j'ai essayé de collectionner tous les magazines qui parlaient d'aviation. Puis j'ai fini par laisser tomber les maquettes parce que je me suis rendu compte un jour que ça prenait beaucoup de poussière, quoi.
Vous en avez toujours quelques-unes ?
J'en ai deux ou trois planquées quelque part sur une étagère, mais bon, je m'intéresse plus trop au maquettisme, je m'intéresse à tout ce qui parle de l'aviation dans des livres sérieux.
Et vous aviez même travaillé pour Aviation Magazine.
Absolument, oui. J'ai eu dans ma carrière, j'ai eu un trou d'à peu près 10 ans. Et pendant ces 10 ans, j'ai travaillé comme pigiste à Aviation Magazine. Et c'est d'ailleurs là que je me suis encore plus intéressé à l'aviation et surtout d'ailleurs à l'aviation russe.
Vous avez compris la décision de cette élue, la maire écologiste de Poitiers, Léonore Monconduit, qui a décidé donc de supprimer les subventions de la ville aux aéroclubs, en prononçant cette phrase qui a beaucoup fait parler, l'aérien ne devrait plus faire partie des rêves d'enfants. Ouais, ça vous a choqué
complètement... ça me choque, oui. Ça me choque. Pourquoi les enfants ne devraient-ils plus avoir rêvé de devenir pilote ou de faire de l'avion, etc. Je trouve ça idiot. Il doit y avoir autre chose là-dessous pour que le maire de Poitiers en vienne à dire ça et à couper les subventions. Je ne sais pas ce qu'il y a dessous, mais...
Et l'aspect écologique, vous comprenez qu'il faille prendre en compte finalement la dimension polluante de l'avion ?
Oui, mais pas dans un aéroclub. Qu'on arrête de construire des Airbus A580, oui, qui ne servent strictement à rien, qui consomment beaucoup de kérosène et qui polluent. D'ailleurs, ils ont arrêté de le construire. Je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut agir. C'est pas au niveau des aéroclubs. Pourquoi interdire à un môme de rêver de faire du planeur, par exemple? Alors, du planeur, ça consomme rien du tout. Il n'y a rien à faire dans un planeur, sauf piloter. Je trouve ça idiot.
Ça vous fait toujours autant rêver aujourd'hui? Ou vous avez finalement intégré que ça n'était pas si bon pour la planète, les voyages en avion?
Les voyages en avion ne me gênent pas. Ce qui me gêne, c'est que la course aux armements entre guillemets, ça veut dire que les flottes deviennent toujours de plus en plus grandes. Et je trouve ça un petit peu bête parce que c'est de la capitalisation de l'aviation. C'est idiot. C'est complètement ridicule, quoi. Enfin, je pense que les écologistes, à ce niveau-là, ils ont raison. Et je pense que la pandémie va mettre fin à tout ça parce que l'aviation après la pandémie ne sera jamais plus comme elle était avant.
Ça veut dire qu'on prendra peut-être un peu moins l'avion, c'est ça que vous pensez ?
Je pense que oui, je pense qu'on a fait beaucoup trop de surenchères au niveau des compagnies, de surenchères, tout, c'est toujours plus gros, ça va toujours plus loin, ça dessert toujours plus de destinations et les prix augmentent toujours plus. C'est comme un serpent qui se mord la queue, quoi. Ça n'en finit jamais.
Herbert Léonard, vous n'aviez jamais chanté sur l'aéronautique, sur l'avion, sur cette passion ?
Non, je n'ai chanté que l'amour et je n'ai jamais, jamais inclus l'aviation là-dedans, non.
Même si
j'aurais pu, mais non.
Ça peut être très romantique, un voyage en avion.
Non, mais je fais la césure entre ce que je chante et ce que j'aime en ce qui concerne l'aviation, quoi.
Merci à vous, merci Herbert Léonard d'avoir été l'invité inattendu d'Europe 1 ce matin.
C'est moi qui vous remercie.
Une belle journée.
À vous aussi, à bientôt, au revoir.
Europe 1, Sébastien Krebs.
La barre des 10 millions de Français ayant reçu une première dose de vaccin a été franchie. Prochaine échéance, prochain objectif, 20 millions à la mi-mai. En parallèle, le nombre de malades Covid hospitalisés en réanimation est en légère baisse, mais reste très élevé, 5705 patients dans ces services. Patrick Balkany a été admis en soins intensifs de cardiologie dans un hôpital de région parisienne. Cette semaine, l'ancien maire de Levallois-Perret souffre d'un œdème pulmonaire et d'insuffisance cardiaque. Et puis dès l'année prochaine, les futurs élèves policiers passeront 12 mois à l'école contre 8 à l'heure actuelle. La durée de leur formation initiale va être rallongée, a annoncé hier le ministre de l'Intérieur. Et le 5-7 se poursuit en musique avec Britney Spears dans la partition d'Omblin Roche, le récit de la descente aux enfers de cet enfant star. A tout de suite.
Europe 1.
6h23 sur Europe 1, c'est l'heure de la partition d'Omblin Roche qui s'intéresse ce matin à une artiste qui fait l'objet d'un documentaire sorti en début de semaine sur la plateforme Amazon Prime, Framing Britney Spears, une enquête du New York Times sur les coulisses de la fabrication d'une pop star, Omblin, qui a d'abord été adoré, puis décrié, voire humilié.
Il faut bien comprendre, Sébastien, que ce documentaire qui retrace la vie de Britney Spears n'est pas musical, il n'est pas vraiment divertissant. Le parti pris des auteurs a été de mettre en surbrillance les violences et la misogynie qu'a subi la chanteuse dès son plus jeune âge. Comment Britney Spears a été malmenée par l'industrie musicale et médiatique? Comment elle en est arrivée à être placée sous la tutelle de son père?
Bien avant d'être pourchassée par les paparazzis, scrutée par les tabloïds, Britney Spears est une jeune fille qui grandit dans une Amérique rurale.
Ouais, dans une petite ville ouvrière et conservatrice de Louisiane, elle ressemble à toutes les autres jeunes filles avec une voix peu commune. Et ça, ses parents l'ont bien remarqué. Ils voient tout de suite en elle l'étoffe d'une star. Britney Spears a tout juste 10 ans lorsqu'elle participe à sa première émission télé.
Elle débute à peine et déjà les remarques de son interlocuteur semblent déplacées.
Oui, incroyable, l'animateur lui demande si elle a un petit copain. Elle répond non, les garçons sont méchants, une réponse classique pour une enfant de son âge. Et il plaisante, je ne suis pas méchant moi, je ne pourrais pas faire l'affaire.
Première consécration à l'âge de 12 ans, elle est engagée au Mickey Mouse Club.
C'est un programme de télévision, Britney Spears s'installe à Orlando, elle va y passer 2 ans, elle va être coachée, apprendre à chanter fort, à danser, à sourire et surtout à être malléable. Quand le Mickey Mouse Club s'arrête, elle retourne chez elle en Louisiane et reprend le lycée. Ses parents ne vont cesser de remuer ciel et terre pour que leur fille atteigne les sommets.
Les efforts des parents de Britney Spears vont s'avérer payants, puisqu'en juin 1997, un enregistrement arrive jusqu'au bureau new-yorkais de plusieurs maisons de disques.
Et c'est le label suédois Jive Records qui détecte un potentiel commercial en cette adolescente de 15 ans au look de pom-pom girl. Disney a fait le plus gros du travail, il suffit de poursuivre le processus de fabrication. Alors que la mode est au boys band, Britney Spears devient la princesse de la pop grâce à des refrains accrocheurs. La bonne copine, l'idole des filles qui peuvent s'identifier à elle, un produit marketing en or, le premier album sort, le triomphe est mondial, l'engrenage s'enclenche.
I'm not. Quel tube de Britney Spears, tube mondial en 1998, Baby One More Time, son premier succès.
Immense succès et son premier album aussi. Ensuite, tout va se dégrader. Britney Spears, la descente aux enfers, lapidée sur la place publique en grande détresse en 2008. Elle est placée sous la tutelle de son père. Ça fait 13 ans que ça dure. Et c'est ce que raconte ce documentaire Framing Britney Spears, disponible sur la plateforme vidéo d'Amazon, qui a fait couler beaucoup d'encre aux États-Unis depuis 2 mois.
Ouais, 39 ans aujourd'hui, elle est toujours sous la tutelle de son père et ne peut pas toucher à sa fortune de 60 millions de dollars. La partition signée Omblin Roche, 6h29. Laurent Cabrol, c'est à vous.
Eh bien, nous tournons la page. Nous tournons la page après le froid, après le temps calme. Voici l'agitation, les vents qui viennent du sud. Une relative douceur que nous allons ressentir dans les jours qui viennent et déjà ce matin car il n'y a pratiquement plus de gelée et nous n'avons que de quelques régions à peine un tiers de la France avec des gelées encore autour de 0 degré seulement, donc ça va mieux. Dans la journée nous aurons des valeurs de 14 à 20 degrés, 22 même du côté d'Agen. Côté ciel, sur l'Aquitaine, le Pays Basque, le Limousin, le Centre et le Morvan, ce sera un régime d'averse. Il pleut déjà sous forme d'averse sur le Pays Basque, sur le Béarn. Il pleut un petit peu d'ailleurs sous le Poitou-Charentes, La Rochelle. Les pluies arrivent tout doucettement. Et puis ces pluies atlantiques, nous les aurons dans la matinée aussi sur la Bretagne, puis l'embouchure de la Loire. Pluie maritime maintenant, ou plus marine, c'est mieux, sur la Méditerranée, Languedoc, Roussillon, Cévennes, la pluie sera là dans le courant de la journée, avec des vents de 90 km/h, s'il vous plaît. Enfin, un ciel voilé sur Paris, sur le Nord, la Champagne-Ardenne, la Franche-Comté, Rhône-Alpes, dans ces contrées. Paris notamment sera touché en fin de journée, dans ces contrées, le ciel sera légèrement menaçant. Voilà, tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7, Sébastien Krebs.
Tout de suite, votre journal. Bonjour François Geffrier.
Bonjour Sébastien, bonjour à toutes et tous.
Bienvenue sur Europe 1, il est 6h30. Gun violence in this country is an epidemic
and it's an international embarrassment. Une honte internationale, une épidémie. Voilà comment Joe Biden qualifie la violence par arme à feu. Le président des États-Unis annonce 6 décrets pour mieux encadrer leur vente. L'avenir de l'université française et les propositions explosives de l'Institut Montaigne qui suggèrent entre autres d'augmenter les frais d'inscription. Et puis à quoi ressembleront les trains TER propulsés ni à l'électricité ni au diesel, mais à l'hydrogène? Vous le saurez à la fin du journal.
Après le journal, comment réinventer la formation des élites françaises après la suppression de l'ENA? Quel recrutement, quelle formation pour les dirigeants de demain? Le regard de Boris Valbaum qui a créé le Forward College, une école justement destinée aux futurs jeunes leaders.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Encore une fusillade il y a quelques heures au Texas. Une personne est morte, il y a 5 blessés, dont 4 grièvement. La police a arrêté un suspect employé du magasin de meubles où ça s'est passé. Avant même ce nouveau drame, le président des États-Unis faisait une annonce sur le contrôle des armes à feu. Alexis Guilleux, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à New York. Joe Biden a eu des mots très forts.
Oui, et le président a commencé par dénoncer une crise de santé publique.
Gun violence in this country is an epidemic.
La violence armée dans ce pays est une épidémie et une honte internationale avec ce terrible bilan.
316 people are shot.
Chaque jour, 360 personnes se font tirer dessus et 106 sont tuées.
Every day.
Alors avec ces 6 décrets, Joe Biden promet des actions immédiates, à commencer par la régulation des ghost guns, des armes en kit sans numéro de série qui aujourd'hui peuvent être achetées et assemblées sans vérification des antécédents du propriétaire. Mais dans les faits, le président ne peut mener aucune action d'envergure. Les démocrates ont besoin de 10 voix républicaines au Sénat pour faire passer leur projet de loi sur le port d'armes, ce qui semble très improbable.
This is just a start. We've got a lot of work to do.
Ce n'est qu'un début, nous avons beaucoup de travail à faire, a admis Joe Biden. Il a rappelé le coût économique estimé de ces violences. 280 milliards de dollars chaque année, les frais d'hôpitaux, de justice, de prison. Alors Joe Biden s'adresse directement au Congrès. À cette prière, il est temps de passer à l'action.
À l'action, Alexis Guilleux en ligne de New York pour Europe 1.
Une bonne nouvelle, elles sont rares, sur le front de la vaccination contre le Covid. Ça y est, la France a atteint son objectif, son premier objectif de 10 millions de premières injections. Et ce, avec une semaine d'avance sur le calendrier prévu.
Oui, alors regardons ce qui nous attend à présent. 20 millions de Français vaccinés mi-mai, 30 millions mi-juin. Anne Le Gall, comment va-t-on tenir la cadence?
Alors on devrait la tenir grâce à la montée en puissance des livraisons de vaccins. En additionnant les doses des 3 vaccins actuels et celle du vaccin Janssen qui arrivera dans 10 jours. La France devrait recevoir au total 15 millions de doses en mai et 28 millions en juin. 28 millions, c'est plus du double de nos livraisons du mois de mars. Alors côté logistique maintenant, pour tenir le nouvel objectif de 20 millions de Français vaccinés au 15 mai, il faudra injecter 250 000 doses par jour dans le mois qui vient, samedi compris, ce qui semble tout à fait jouable puisqu'aujourd'hui on arrive déjà à dépasser ce niveau plus de la moitié de la semaine. Ensuite, à partir de mi-mai, nous aurons normalement les doses pour vacciner 330 000 Français par jour, essentiellement dans des centres équipés de supercongélateurs, car Moderna et surtout Pfizer représenteront alors les deux tiers des livraisons et ils doivent se conserver ces vaccins à basse température. Si les laboratoires tiennent leurs engagements, 45% de la population française pourrait donc avoir reçu une première injection mi-juin.
Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1. Comment les universités françaises vont-elles sortir de la crise sanitaire alors qu'il y a une certaine lassitude des enseignants face au manque de moyens, notamment dans la recherche? L'Institut Montaigne, organisme de réflexion, fait des préconisations dans un rapport dévoilé hier.
Et l'une de ces idées va faire du bruit, hein, Virginie Riva, puisqu'il s'agit d'augmenter les frais d'inscription.
Oui, passer de 170 à 900 euros pour s'inscrire en licence et de 243 à 1200 euros en master. Une proposition audacieuse. L'objectif, c'est d'augmenter les entrées financières des universités. Et pour compenser ce surcoût pour les étudiants, l'Institut propose de mettre en place des prêts innovants que les étudiants rembourseraient une fois entrés dans la vie active et selon leurs revenus. Autre préconisation, pour les universités qui le souhaitent, l'Institut Montaigne suggère qu'elles gèrent seules leur patrimoine immobilier, ce qui n'est pas le cas actuellement. L'inspiration de ce rapport est clairement à chercher du côté anglo-saxon. Les présidents d'université doivent devenir, je cite, des entrepreneurs institutionnels, récupérer les prérogatives des CROUS et gérer seuls l'ensemble des aides sociales. Des aides qui devraient être augmentées à hauteur de 250 millions pour les étudiants les plus en difficulté. L'État n'est pas pour autant appelé à se désengager. Selon l'Institut, la France devrait au contraire augmenter ses efforts et consacrer 5% de son PIB à l'enseignement supérieur et à la recherche. C'est seulement 3,5% actuellement.
Virginie Riva.
Europe 1 vous dévoilait cette information dès hier matin, la suppression de l'ENA qui sera remplacée par une autre école pour former les nouveaux fonctionnaires, l'Institut des services publics.
Oui, il s'agit de varier les profils et justement ce matin, un parcours totalement atypique, preuve qu'il y a des exceptions à la règle. L'actuel sous-préfet de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe qui a commencé sa carrière en tant que chauffeur routier, Johanna Chabas, a pu s'entretenir avec lui.
Devenir sous-préfet, Bruno André ne l'aurait jamais imaginé.
Mon père était gendarme, ma mère couturière. Je ne savais même pas que ça existait. Je ne suis pas doué pour l'école et donc je cherche à aller travailler le plus rapidement possible. Et si on n'est pas agriculteur ou pêcheur en Bretagne à cette époque-là, ben on est facilement chauffeur routier.
Chauffeur routier, menuisier, carreleur, Bruno André touche à tout, mais il peine à maîtriser la comptabilité. Alors à 24 ans, il reprend ses études et pour continuer à gagner de l'argent, il passe le concours public de gardien de musée.
Le jour, j'allais à la fac et la nuit, je travaillais. Et c'est là que je suis rentré dans la fonction publique. Progressivement, j'ai passé les différents concours de l'administration pour arriver enfin sous-préfet.
Sous-préfet à 44 ans, son parcours, qu'il décrit comme atypique, l'aide au quotidien lorsqu'il gère les problèmes des hôpitaux, des agriculteurs et de ses administrés.
Quand je rencontre des chefs d'entreprise ou des artisans, je leur dis « bah ouais, moi j'étais artisan ». On me disait « oui, les hauts fonctionnaires ». Je dis « j'ai pas toujours été haut fonctionnaire ». On peut créer cette proximité en tous les cas.
Aujourd'hui, à 58 ans, le sous-préfet de Pointe-à-Pitre n'a plus à se poser de questions sur son avenir. Et pourtant, il continue de passer la visite médicale du permis poids lourd tous les ans, au cas où.
Johanna Chabas. Des trains à hydrogène en France, c'est en bonne voie. La SNCF vient de commander 12 premiers trains auprès d'Alstom. Il s'agira de TER qui arriveront en 2023 en Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est. Alors, à quoi ressembleront ces trains et comment vont-ils fonctionner? Surtout, les explications d'Aurélien Fleureau.
Après le charbon, après le diesel, place au carburant zéro émission. Hydrogène et électrique, ces trains que la SNCF appelle bimodes ressembleront aux toutes dernières générations de TER, 4 voitures, 220 places, avec une autonomie pouvant assurer des trajets de 600 km, même sur des lignes non électrifiées, annonce Christophe Fanichet, le PDG de SNCF Voyageurs.
Le train, il basculera automatiquement sur une énergie hydrogène. Sur des portions de ligne, il utilisera la caténaire et donc la source d'énergie électrique. Et puis, dès l'instant qu'il n'y aura plus de caténaire, aujourd'hui, il basculait en diesel. Eh bien, demain, dès 2023, il basculera sur l'hydrogène. Et donc, on continuera à avoir un transport complètement propre.
D'ici 2023, la SNCF va former ses cheminots aux techniques de la pile à combustible. Ces trains seront 100% Alstom. 6 des 15 sites français du groupe seront sollicités. conception et assemblage à Reichshofen dans le Bas-Rhin, développement de la propulsion hydrogène à Tarbes dans les Hautes-Pyrénées ou encore informatique embarquée du côté de Villeurbanne, 2000 emplois mobilisés sur ce projet chez Alstom, mais aussi chez ses fournisseurs.
Aurélien Fleureau. Bon, vous avez reconnu le générique d'Astérix et Obélix. Le prochain film, qui s'intitulera L'Empire du Milieu, a dévoilé son casting hier. Que du beau monde. Guillaume Canet pour Astérix, Gilles Lelouch pour Obélix. On verra aussi Vincent Cassel, Marion Cotillard, Pierre Richard dans le rôle du druide Panoramix, Jérôme Commandeur, Audrey Lamy. Il paraît aussi qu'on y verra un certain Zlatan Ibrahimovic.
Oui, qui va jouer un soldat romain. On en parlait tout à l'heure. 6h39, c'était le journal de François Geffrier.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Et j'accueille en direct l'invité du 5-7. Bonjour Boris Valbaume.
Bonjour.
Bienvenue sur Europe 1, merci d'être avec nous. On l'annonçait ici même dès hier, Emmanuel Macron va donc supprimer l'ENA. On en parlait avec Bernard Spitz, lui-même ancien haut fonctionnaire. Un autre regard ce matin, le vôtre, vous avez fondé à la fois une association pour défendre l'égalité des chances qui s'appelle Article 1 et une école dont on va parler. Je précise que vous êtes vous-même un ancien diplômé de l'ENA.
Oui.
On parle d'égalité des chances, de diversification. L'ENA aujourd'hui ne ressemble pas à la France ?
Non, l'ENA, c'est aujourd'hui 70% des élèves qui sont issus de milieux favorisés. Et c'était 45% dans les années 50 à 60. Donc non seulement elle ne ressemble pas au pays, mais en plus elle ressemble de moins en moins au pays. Et ça, c'est extrêmement grave.
C'était le cas dans votre promo ? Il n'y avait pas de diversité de parcours, de profils ?
Il y en avait peu. Alors le concours interne, c'est vrai, permet un ascenseur social, mais on était tous issus, peu ou prou, du même milieu, disons des milieux qui étaient au moins intellectuellement favorisés, si ce n'est socialement favorisés.
Vous êtes heureux de cette décision de supprimer cette école ?
Oui, moi je suis heureux pour deux raisons. D'abord parce que c'est un message en faveur de l'égalité des chances, qui s'inscrit dans une vraie stratégie du président et un vrai discours du président de la République en faveur de l'égalité des chances, qui est aujourd'hui, pour moi, l'inégalité des chances, c'est le sujet majeur, c'est la question sociale majeure, c'est l'injustice majeure de notre pays. Et puis, je suis content aussi parce qu'au fond, au travers de cette réforme, on envisage une nouvelle façon d'exercer le pouvoir, plus horizontal, moins vertical, moins top-down, comme on dit en bon français, et qui voilà, interroge aussi sur la façon dont on forme les dirigeants.
Alors, on va parler de ces deux points. D'abord, peut-être le recrutement, puisqu'on parle d'égalité des chances. Comment, justement, assurer une certaine diversité dans le recrutement, tout en gardant l'exigence et le mérite ?
Alors, il faut bien comprendre quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, notre système de sélection des élites, que ce soit dans le public ou dans le privé, puisque ce n'est pas que le problème de l'ENA, cette question, fonctionne comme si on choisissait des équipes olympiques en mettant un juge sur la ligne d'arrivée et en mettant des coureurs à 100 mètres de ligne d'arrivée, d'autres à 200 mètres et d'autres à 300 mètres. Et tout le monde dit ce qui est important, c'est que le juge regarde bien la ligne d'arrivée. Le problème, c'est que vous en avez qui courent plus vite que les autres et qui arrivent dernier pour autant sur la ligne d'arrivée parce qu'ils partaient de beaucoup plus loin. J'ai l'exemple d'une jeune femme qui s'appelle Léontine et qui est arrivée à 13 ans du Cap-Vert, qui ne parlait pas un mot de français, qui a été admissible à l'école normale supérieure, qui n'a pas passé l'oral, et elle me disait « Bah oui, c'est vrai que je ne maîtrisais pas assez la culture française ». Vous imaginez qu'en 5 ans, le parcours qu'elle a fait montrait qu'elle était nettement meilleure que la plupart de ceux qui, eux, ont été admis. Et pour elle, d'ailleurs, ce n'était même pas un problème. Elle avait accepté cet état de fait.
Ça veut dire qu'il faut oublier le système de concours ou est-ce qu'on peut malgré tout garder un concours d'entrée ?
Je crois qu'il faut comprendre que la discrimination positive dont on parle et qui excite tout le monde en disant c'est quelque chose d'anglo-saxon, eh bien c'est quelque chose qui est fondamentalement français. L'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme, c'est dire qu'on ne peut pas sélectionner les fonctionnaires, mais c'est vrai de tous les dirigeants, sans autre considération que celle de leur capacité, de leur talent et de leur vertu. Une jeune femme qui arrive à 13 ans, qui commence à apprendre le français, qui travaille deux fois plus que les autres, qui le fait dans des conditions qui sont deux fois pires que la plupart de ses camarades et qui malgré tout réussit, eh bien elle a plus de mérite, plus de talent et sans doute plus de capacité que les autres.
Donc, il faut trouver de nouveaux moyens, de nouvelles voies de recrutement.
Oui, alors il faut trouver de nouvelles voies de recrutement ou compenser au concours cet état de fait, comme vont le faire les écoles normales supérieures. Mais c'est aussi effectivement tout l'accompagnement. Et effectivement, dans le cadre d'article 1, on accompagne aujourd'hui à peu près 150 000 jeunes par an. Donc c'est beaucoup, mais ce n'est pas du tout assez. On n'est pas les seuls à travailler sur cette question. On les accompagne de l'orientation jusqu'à l'insertion professionnelle. Donc il faut le prendre pendant tout ce parcours, mais il faut le prendre aussi avant. Il y a plein d'associations qui travaillent notamment dans le domaine du mentorat. Il y a une grande initiative du président de la République pour multiplier par 3 cette année et par 6 l'année prochaine. C'est pas rien le nombre de gens qui sont, de jeunes qui sont aidés par des personnes qui sont plus favorisées et plus avancées dans le système. Donc, il faut créer de la solidarité vers la réussite.
Vous, vous avez fondé donc cette association dont vous venez de parler et une école qui est justement destinée à former les décideurs, le Forward College. En quoi cette école est différente des autres ?
L'ENA, mais comme beaucoup de grandes écoles, sélectionne uniquement sur des compétences intellectuelles ou techniques. On parle d'ailleurs de technocratie. Voilà. Et donc c'est la technique qui crée la légitimité et le pouvoir. C'est très bien la technique et je ne la remets pas en cause. C'est vrai que c'est important de comprendre comment ça fonctionne, effectivement, une pandémie. Si on ne sait pas calculer, c'est un peu embêtant. Mais il faut aussi comprendre la façon dont les gens le vivent. Et ça, ça nécessite de développer d'autres formes d'intelligence. Ça nécessite de développer l'intelligence sociale pour avoir créé des relations de confiance avec des gens qui peuvent être des commerçants, des gens qui peuvent être des profs, des gens qui... Voilà, pour comprendre la situation dans laquelle ils sont et à ce moment-là, arriver avec une meilleure solution. Il faut avoir une capacité, une intelligence émotionnelle pour être capable d'empathie et donc d'être capable de convaincre. Quand on est dans une posture un peu haute et un discours un peu froid, eh bien, le message porte moins bien. C'est une réalité.
Nos administrations sont gérées par des hauts fonctionnaires qui sont déconnectés des réalités ?
Non, Jérôme, je ne dirais pas qu'ils sont déconnectés parce que c'est des gens qui sont très curieux, qui sont très ouverts sur le monde, qui lisent beaucoup, mais qui effectivement n'ont pas la même expérience que la plupart de leurs concitoyens. Et donc, c'est vrai que ça explique pourquoi, alors qu'on essaie d'aller dans la bonne direction pour le climat, et bien à un moment, on se prend les gilets jaunes parce qu'on n'a pas compris ce que ça voulait dire pour toute une partie de la population que d'augmenter le prix du diesel.
Ça veut dire que l'idée qui est développée autour de cet institut du service public est d'envoyer directement à la sortie de l'école ces hauts fonctionnaires, d'abord sur le terrain, sur des postes vraiment de terrain, avant d'arriver dans les grands corps comme l'inspection des finances ou le Conseil d'État, c'est plutôt une bonne idée selon vous ?
Oui, alors j'ajouterai le cours des comptes puisque moi j'en viens. Donc.
Ouais, le cours des comptes. Ouais.
C'est, à mon avis, la réforme majeure qui va changer les choses pour la haute fonction publique. Commencer par le terrain, c'est commencer par effectivement une relation beaucoup plus proche aux administrés. Donc on est moins sur des chiffres et plus sur des situations réelles. Et donc c'est là où effectivement on est capable de développer ses capacités d'interaction avec les gens, de contact et de confiance. L'administration est trop repliée sur elle-même, trop sur sa tour d'ivoire pour se protéger des influences, à part d'une bonne intention au départ, mais qui en réalité après se traduit par une déconnexion qui est dommageable. Donc oui, c'est excellent et très fort. Il ne faut pas sous-estimer le courage politique qu'il faut pour casser ça. C'est des choses qui existent non pas depuis 45, depuis très longtemps. La Cour des comptes, l'inspection des finances et le Conseil d'État recrutent directement des jeunes depuis qu'ils sont créés comme corps. Donc ça, c'est vraiment un énorme progrès, encore plus, je dirais, que le changement de basculement de l'ENA vers un institut du service public.
Il y a des hauts fonctionnaires qui, entre guillemets, n'ont rien à faire dans leur fonction à la sortie de l'ENA, ne sont pas adaptés au poste auquel ils arrivent après le concours de sortie de l'ENA ? C'est ce que vous avez vécu, vous avez pu le vivre autour de vous ?
Oui, ça arrive. Ça arrive effectivement que des personnes fassent des choix en fonction du prestige du corps qui leur est accessible, plus qu'en fonction de leur vocation professionnelle. Et ça, je crois que ça renvoie encore à cette idée qu'on a une vision verticale. C'est-à-dire que vous êtes quand même classé de 1 à 100 quand vous sortez de l'ENA. C'est quand même un peu traumatisant. Vous avez 25 ans, on vous traite comme un petit enfant.
Concours d'entrée, concours de sortie, deux fois.
Oui, entrée et sortie. Mais sortie, ça a plus d'impact que l'entrée. Entrée, vous êtes rentré 5e, vous êtes rentré 80e, c'est pas... Voilà. En revanche, le rang de sortie va faire une vraie différence.
Et joue ça, sur l'ensemble de la carrière par la suite, puisqu'on intègre
joue sur l'ensemble
telle
de la carrière.
Ou telle,
je pense
telle
de moins en moins. Quand vous n'êtes pas bon, objectivement, même si vous êtes issu d'un grand corps, vous ferez une carrière qui est tout à fait honnête, mais vous n'irez pas très loin, parce qu'il y a une telle pression sur l'État, une telle pression sur les administrations, qu'à un moment, quand même, la réalité reprend le dessus.
Merci beaucoup d'être venu ce matin sur Europe 1, Boris Valbaume. Votre école s'appelle donc le Forward College, votre association Article 1. Merci, bonne journée.
Merci, bonne journée.
Europe 1.
Il est 6h47, à suivre l'innovation du jour avec Anissa Mbida.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Il est 7h10, un vol à main armée au Georges V hier soir dans le palace parisien près des Champs-Élysées. Un homme casqué armé d'un pistolet a menacé 2 employés puis a brisé les vitres de la joaillerie avec une petite hache et emporté pour 100 000 euros de bijoux. Le chiffre du jour, 10 millions de premières injections de vaccins, premier objectif atteint avec quelques jours d'avance sur le calendrier prévu. Prochaines échéances, 20 millions de doses administrées à la mi-mai. À l'Assemblée nationale, les débats sur l'euthanasie Nazis ont été interrompus peu après minuit. C'était attendu, la proposition de loi pour une fin de vie libre et choisie n'a donc pas pu être soumise au vote faute de temps. Bonjour Anissa Mida.
Bonjour Sébastien Krebs.
Votre innovation du jour est une lessive. Aujourd'hui, alors on connaît la lessive liquide, la lessive en poudre, en dosette. Eh bien, désormais, vous avez trouvé une lessive sous forme de bandelette de papier.
Oui, c'est assez surprenant. Ça ressemble un peu à du papier d'Arménie en plus grand. Donc, c'est un bloc de feuilles prédécoupé. On déchire une languette d'une dizaine de centimètres de long sur 3 de large. On la met dans le tambour, on ajoute son linge et c'est parti. La bandelette va être totalement dissoute au lavage. Donc, ça s'utilise exactement comme de la lessive traditionnelle, mais c'est beaucoup, beaucoup plus écologique. D'abord, ça prend très peu de place, l'encombrement d'un livre de poche. Et surtout, l'emballage est minimaliste en papier recyclé, là où les bidons et les boîtes de lessive actuelles sont en plastique, du plastique malheureusement rarement recyclé, qui finit au mieux à l'incinérateur ou au pire dans l'océan.
Et la composition de la lessive, elle est aussi écologique ?
Oui, c'est ce qu'ils assurent, sans parabènes, sans phosphate, hypoallergénique, certifié vegan, etc. Et évidemment, comme toutes ses concurrences, elle lave plus blanc que blanc.
C'est vous n'allez pas me dire le contraire.
Bah non, c'est Trueurf, une start-up canadienne qui a lancé cette lessive. Et je trouve qu'elle est vraiment typique de la tendance actuelle où on cherche à créer des détergents respectueux de la nature, aussi bien dans le contenant que dans le contenu. Il y a par exemple un fabricant de gel douche dont l'emballage est fabriqué en savon. Donc quand il est vide, on se frotte avec la bouteille. Si,
ça mais vous intéresse ? Ils ne font pas dans la douche.
Non, on ne met pas la bouteille sous la douche.
On peut prendre un peu l'eau quand même.
En tout cas, si ça vous intéresse, ça s'appelle Soap Bottle. C'est une start-up allemande. Mais vous savez ce qu'on attend désormais ? Eh bien, c'est de savoir ce que vont faire les plus gros pollueurs en plastique, les vendeurs de boissons. Parce qu'on le rappelle, le gouvernement a fixé un objectif de 100% de plastique recyclé d'ici 2025. C'est dans 4 ans. Il va donc y avoir de gros changements dans nos emballages.
Voilà, les emballages réutilisables aussi, ça existe. On peut aller au vrac et remplir sa bouteille. Anissa Mbida, merci. C'est l'innovation du jour, 6h50. Et on débute notre tour du monde ce matin au Brésil. Bonjour Marino Dacher.
Bonjour Sébastien.
Qu'est-ce qui fait la une de la presse chez vous à Sao Paulo ?
Eh bien, c'est la catastrophe sanitaire qui se poursuit ici. L'hebdomadaire Carta Capital décrit le Brésil comme une usine à variants, la revue Veja comme un chaudron de mutations. Au moins 92 variants circulent sur le territoire, d'après la Fiocruz, l'équivalent de l'Institut Pasteur au Brésil. Pour les chercheurs, c'est un cercle vicieux. Plus on a de variants, plus la transmission explose, avec le risque que les vaccins soient inefficaces, s'inquiète le quotidien Globo. Nous vivrons encore des semaines difficiles, prévoit le vice-gouverneur de São Paulo, interrogé par la chaîne Globo News. CNN explique qu'un tiers des morts dans le monde en mars étaient brésiliens. Chaque soir, les chiffres sont dévoilés par les secrétariats de chaque État. Environ 4000 morts quotidiens en ce moment, soit un total de 340 000 décès dans le deuxième pays le plus touché au monde.
Et le président Jair Bolsonaro pourrait bientôt faire l'objet d'une enquête lancée par le Sénat brésilien pour sa gestion de la pandémie. Merci à vous Marino Dacher au Brésil pour Europe 1. Nous revenons en Europe, direction la Grande-Bretagne. Bonjour Elodie Goulesque.
Bonjour Sébastien.
Quel sujet fait les gros titres à Londres ?
Eh bien ici, on parle des violences en Irlande du Nord pour la 7e nuit consécutive. Londres et Dublin appellent au calme, titre le Financial Times. Dans le Guardian, on peut lire que Boris Johnson s'est entretenu avec le Premier ministre irlandais Michael Martin, alors qu'hier soir, la police de Belfast a dû utiliser des canons à eau pour canaliser des bandes de jeunes. En cause, le Brexit. Sky News rappelle que ces manifestations sont l'expression d'une frustration des unionistes. Selon eux, les contrôles douaniers entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni sont inadmissible, car il crée une frontière. Enfin, le quotidien Métro titre quant à lui « Les mauvais jours sont de retour », en référence aux troubles. Ces 30 années de conflit en Irlande du Nord qui ont opposé pro- et anti-indépendance et fait plus de 3500 morts.
Merci à vous, Elodie Goulesque, depuis Londres, pour Europe 1. Nous terminons ce tour du monde en Chine. Bonjour Sébastien Lebelzik.
Bonjour Sébastien.
Qu'est-ce qui occupe les médias chez vous à Pékin ?
Alors à la une de l'actualité aujourd'hui en Chine, cette proposition de loi déposée par le ministère de l'Éducation, une loi qui vise à interdire toute relation amoureuse entre un enseignant et ses élèves. Le magazine Sixstone détaille cette loi qui interdit aux professeurs d'avoir des discussions à caractère sexuel et même de toucher les enfants. Le journal The Paper à Shanghai revient sur l'affaire cette année d'un enseignant à Ningbo qui avait une relation avec l'une de ses élèves de 13 ans. Un fait divers qui avait fait couler beaucoup d'encre ici et conduit à cette nouvelle loi qui ramène donc à 16 ans au lieu de 14 ans la majorité sexuelle lorsque justement il s'agit d'un rapport entre un enseignant et un enfant. enfants. D'autres lois ont été votées cette année, explique le quotidien du Peuple, pour protéger les plus jeunes, notamment contre les punitions corporelles et les humiliations, des pratiques très courantes encore dans les écoles chinoises.
Sébastien Lebelzik à Pékin. Europe 1. 7h05, Laurent Cabrol va nous dire que les températures se radoucissent, mais la semaine a été terrible pour les arboriculteurs, pour les viticulteurs. Nous sommes à leur côté dès le début du journal de 7h dans un instant. Il est 6h58 sur Europe 1, je souhaite une très belle journée, un très bon week-end à lundi pour le 5-7 avec toute l'équipe. Bonjour Mathieu Béliard.
Bonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Europe 1 vendredi 9 avril 2021. Le monde a changé, on va vous le raconter. Cette information qu'Europe 1 dévoilait hier, la suppression de l'ENA, son remplacement par une nouvelle école, l'Institut de Service Public, nos informations dans le journal à suivre, une annonce qui ne changera rien pour Nicolas Bétou. Ça c'est l'édito politique à 7h50 et à 8h15, tiens, un ancien énarque justement, Philippe Devilliers qui répondra aux questions de Sonia Mabrouk ce matin. Mais à travers cette question, celle de la formation de nos élites, une autre question que nous nous posons ce matin, nos dirigeants ont-ils suffisamment de culture scientifique ? Je reçois un vulgarisateur hors pair, 5G, vaccins, PMA, génétique. Le physicien Raphaël Chevrier balaye ces questions scientifiques qui agitent le débat public dans son livre « Qu'en dit la science ?». Il reproche à Emmanuel Macron et au gouvernement de se cacher derrière la science pour s'exempter de leur rôle de décideur. C'est le tête-à-tête Europe Matin et c'est à 7h40 tout à l'heure. Voilà quelques éléments du programme. À 6h59, nous accueillons Laurent Cabrol, c'est l'heure de la météo. Bonjour Laurent.
Ouais, salut mon cher Mathieu. Bien, la météo a changé elle aussi. Il n'y a pas que le monde qui change, ou elle change avec le monde, comme vous voulez. Nous avons des températures maintenant qui sont beaucoup plus raisonnables, hein, beaucoup plus républicaines. Moins 1 à Strasbourg, c'est la plus basse de la journée, de la matinée. 0 à Chartres et à Alençon, 1 à Orléans, 2 à Brest, 3 à Bourges, 4 banlieues parisiennes, 5 degrés à Sochaux, 6 à Nantes, 9 à Cognac, 10 à Marseille. Températures actuelles avec dans la journée des valeurs qui vont s'échelonner entre 13 et 20 degrés. Là, nous retrouvons des valeurs de saison, ouf. Mais avec tout cela, la pluie. Alors, certains s'en réjouiront parce que vraiment, on manque de pluie. Nous avons une sécheresse de surface qui est assez importante. Aquitaine, Pays Basque, Poitou, Charente, Limousin, Centre et Morvan, des averses. Si vous habitez la Bretagne, l'embouchure de la Loire, ce sont des pluies qui vont arriver. D'ailleurs, elles commencent à arriver. Et puis, sur la Méditerranée, Languedoc-Roussillon et Cévennes, du vent avec également de la pluie. Je termine. Normandie, région parisienne, Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, Franche-Comté, Rhône-Alpes, Provence-Côte d'Azur. De la pluie en fin de journée, mais un ciel voilé sur Paris. Il pleuvra en fin de journée et le ciel sera voilé tout au long de ce vendredi.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1. On écoute le monde changer.